marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Corto Maltese. Votre nom me dit quelque chose. À moins que ce ne soit votre tête. Je dois l'avoir vu quelque part.
Hugo Pratt et Corto Maltese.
Hugo Pratt ignore-t-il que nous le cherchons ? Décidément, il se conduit comme quelqu'un qui ne voudrait pas le savoir. Tout paraît prendre l'allure d'une gigantesque partie de cache-cache, où la mer serait sa complice. C'est une certitude. Des pêcheurs l'ont vu. Hugo Pratt a accosté ici, à Obock, où le vieil Henri de Montfred avait installé sa maison, son boutre et ses chimères, non loin de cette incroyable résidence dominant la mer Rouge. Oui, c'est vrai, il déjeunait hier, ici, avec Aden, son ami. Puis il s'en est allé, Aden ne sait pas où. Pourtant, ils ont longuement parlé, longuement mangé. Hugo lui a même raconté une histoire extravagante, une histoire de frontière en un pays lointain.
Oh, mon âme, si tu ne peux aspirer à la vie immortelle, épuise au moins le champ du possible. Hugo Pratt est mort en 1995, à 68 ans, en ayant bien usé du monde. Dessinateur qui écrivait, écrivain qui dessinait, il a laissé bien d'autres personnages que Corto Maltese. Mais rien n'y fait, c'est le marin qu'il avait fait naître bien avant lui, dès 1887, mais qui vieillissait beaucoup moins vite que lui, qui lui a survécu. Il est vrai que Corto parle peu, ce qui lui évite de dire et de commettre bien des bêtises. Il ne se dépense pas non plus à rire, tout au plus, sourit-il, souvent. C'est un vaste public qu'il maintient en vie, un public également partagé, adulte autant que jeune, féminin autant que masculin. Les historiens ont pour lui un goût particulier. Pratt les conduit aux guerres et aux révolutions du XXe siècle par des biais qui ne sont qu'à lui. Exemple, il ne raconte pas 1917 à la façon « 10 jours qui ébranlèrent le monde » de John Reed. Il nous emmène plutôt en 1905 rencontrer un jeune révolutionnaire encore sympathique nommé Staline ou en 1919 il nous fait pénétrer dans le train de l'amiral Koltchak, le chef blanc qui sillonne le bassin de la Volga et la Sibérie. Il nous fait entrer dans l'histoire par les chemins des vieux songes. Il rend visibles les choses invisibles. C'est à ce passe-frontière qu'est consacrée une exposition à Lyon, dans un lieu qui, en l'occurrence, mérite son nom, le Musée des Confluences.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Corto, que fais-tu dehors?
Je pense que je devrais me décider à partir. Venise me rend paresseux.
Venise est faite pour cela. Veux-tu un petit verre de Rosolio?
Rosolio? Je savais pas que ça existait encore. Mais dis-moi, bouche d'oreille, depuis quand habites-tu Venise?
Je suis venue en 1300 avec le kabbaliste Mancello Judeo. Oh oui. Nous étions alors des amis de Dante. Mais il suffit d'ouvrir cette porte du fond pour partir ou revenir. Dans le temps, comme dans une fable.
Ce serait bon de vivre une fable.
Mais toi, tu vis continuellement une fable et tu ne t'en aperçois plus. Lorsqu'un adulte entre dans le monde des fables, il ne peut plus en sortir. Le savais-tu?
Nous sommes peut-être en retard. Aujourd'hui, c'est le 34 décembre. Et le premier jour de l'année n'est pas encore arrivé.
Ah oui, oui. Mais Noël est arrivé le 27. Ici à Venise, les années sont toujours un peu plus longues.
Ici à Venise, les années sont toujours un peu plus longues. L'enfance d'Hugo Pratt a été vénitienne. Né à Milan, disait-il, je serais peut-être entré dans la production industrielle. À Rome, dans le cinéma. Mais dans l'ancienne Sérénissime, le pas est comme suspendu par les anciens mystères.
Quand moi j'étais gosse, moi j'ai travaillé, j'ai joué, j'ai allé à la maison des Juifs. Je me souviens de cet escalier. C'est très beau les cours qui sont arrière là. Et il a des noms encore anciens, comme la corte sconta de Tarkana, ce que ça veut dire cour cachée, dite Arkan. Arkan parce qu'avant, il y avait des juifs qui faisaient la Kabbalah.
Son grand-père, Eugenio Gennaro, est juif, ce qui, en Italie, au début des années 20, n'interdit pas encore d'être fasciste.
Ma famille a été fasciste. Ils sont tous des fascistes. Chemise noire, hein? Médaille fasciste, la charpe de la marche sur Rome.
Il avait un oncle qui était toujours les contestataires de la famille. Il est parti marin, et c'est lui qui venait toujours de longs voyages et me portait les cadeaux et tout ça. Et c'est lui qui était toujours l'antifasciste de la famille. Et c'est lui qui me fait réfléchir quand j'étais gomme. Et alors, était l'oncle, pour moi, l'oncle plus intéressant, plus mystérieux, plus magique.
Le marin, le voyageur.
Le marin, le voyageur. Ouais.
Hugo se gardera de condamner un à un les membres de sa famille. Le fascisme, dit-il, c'est comme une maladie dont il était difficile de se garder. Puis, en 1935, elle gagna par contagion de l'Europe à l'Afrique.
L'Afrique est pour les États européens un immense champ de colonisation. En un siècle, ils ont pris possession de la presque totalité de ce continent. Une large tâche a subsisté pourtant, dernier bastion de résistance à la pénétration européenne. Ce pays est un formidable chaos de hauts plateaux et de pics alpiers, dont quelques-uns peuvent rivaliser avec le Mont Blanc. Le relief de son sol fait de l'Abyssinie une véritable forteresse naturelle. En tempérant les rigueurs d'un climat tropical, il a permis que se constituât, dans les temps les plus reculés, par l'apport de migrations venues d'Égypte ou d'Arabie, une race tout à fait exceptionnelle sous une telle latitude et nettement différente des races négroïdes qui peuplent la plus grande partie du continent noir. Race de pasteurs dont l'image vivante évoque les temps bibliques. Aujourd'hui, toute l'attention du monde se porte sur l'Abyssinie. L'Italie, à proximité d'une des plus grandes voies maritimes de la Terre, a entrepris une action dont les mobiles dépassent le cadre de cette esquisse.
À Asmara, en Érythrée italienne, le haut commissaire vient, au nom du gouvernement fasciste, accueillir les deux fils de M. Mussolini, engagés volontaires dans l'aviation. Les deux fils de M. Mussolini et son gendre, M. Galeazzo Ciano, visitent le camp d'aviation. Le comte Ciano, délégué par le Duce au service de la presse et de la propagande en Afrique orientale, prend possession de son siège.
En 1936, c'est le père d'Hugo, Rolando Pratt, qui part en Éthiopie occuper une fonction dans un bureau de main-d'œuvre indigène. Le jeune Hugo et sa mère, dont il est à noter, tiens, qu'elle a un attrait pour l'occultisme, viennent le rejoindre en 1937. Hugo a 10 ans.
L'Éthiopie était importante parce qu'elle était la première fois, disons, que j'ai sorti de Venise, qui était notre ville formidable, notre ambiance formidable, et je suis allé avec mon père et ma mère à l'Éthiopie 1937. Et alors, c'était un moment très spécial parce que moi, je voudrais trouver une certaine Afrique à ce moment-là. L'Afrique un peu Hollywood, parce que moi, je viens de la bande dessinée et dans les films d'Hollywood. Alors, il y avait tellement tant de films hollywoodiens sur l'Afrique, et c'est cette Afrique-là, que c'est une Afrique anglo-saxonne, un peu inventée, un peu chorégraphique, dans un certain goût américain et anglais. J'ai trouvé un autre Afrique qui m'a un peu, comme on peut dire, déçu au premier moment, et après j'ai trouvé fascinant.
Et en fait, vous êtes tout de suite amis
avec les Abyssins que vous rencontrez et vous avez appris à parler l'Abyssin. Vous le parlez encore?
Je peux dire quelques mots, je peux le visiter encore comme ça. Et maintenant,
pas mal.
C'est une belle langue, très ancienne. Mais vous savez, les rêves italiens, disons comme ça, colonialistes, étaient très courts, heureusement. Et alors, même quand je suis retourné là, il n'y avait pas un grand problème entre les Italiennes et les Éthiopiennes. Et moi, quand j'étais en Éthiopie, j'avais la nécessité d'avoir des complices pour jouer, pour avoir l'approche des gens de mon âge. Et qui étaient les gens de mon âge, sinon des Abyssiniens, des Éthiopiens? Alors c'est ça l'amitié, c'est ça qui est arrivé quelque chose d'important, parce que est né sous le drapeau de l'amitié et pas sous le drapeau du nationalisme.
Alors ça, c'est à nouveau la vérité, et en même temps ça participe à la légende d'Hugo Pratt. C'est vrai que vous avez été le plus jeune soldat, on l'a dit, du monde, en tout cas de l'armée italienne en Abyssinie.
Je crois que oui, parce qu'à 13 ans, je me suis trouvé militarisé. Alors j'ai vu la dernière guerre, si vous voulez, un peu coloniale, impérialiste. Et nous avons été là, oubliés de l'Italie, parce qu'il y avait comme 1 million de connationnels à ce moment-là en Éthiopie. Et alors, et tous les hommes, les adultes, ils sont au front, presque. Mon père, c'est à Keren. Et alors, on avait la nécessité d'avoir un contingent de soldats, de faire voir qu'il y a encore, à Addis Abeba, à ce moment-là, la capitale de cet empire, un peu farfelu, il avait des présence militaire. Alors, on a pris les plus jeunes, qui sont des étudiants, on l'a mis dans un bataillon pour faire semblant qu'il avait encore les soldats. Et moi, j'étais le plus jeune de tous.
Vous aviez quoi? Vous aviez 12 ans, 13 ans,
oui.
Ouais. Vous étiez dans la police coloniale.
Les pires de tous, parce qu'ils m'ont mis dans un contingent de police coloniale. Alors, être déjà dans une armée colonialiste, coloniale, mais plus être de la police coloniale, être la pire chose qui me pouvait passer. Moi, j'étais dans une espèce de force auxiliaire, une armée privée.
Mais alors justement, est-ce qu'à l'époque, vous aviez 13 ans, donc vous avez fait une réserve de souvenirs extraordinaires qu'on trouve dans tous les livres aujourd'hui. Vous aviez le sentiment que vous viviez quelque chose d'exceptionnel? Vous preniez des notes, vous dessiniez déjà?
Oui, parce que j'avais pas... tous les caméras photographiques ont été réquisées pour l'armée britannique. Alors qu'est-ce qui me restait sinon d'exploiter cette don de naissance que moi j'avais, qui serait le dessin. Et j'ai commencé à dessiner à ce moment-là, j'avais dessiné avant, mais c'est là que j'ai pris le plaisir à faire et la conscience de pouvoir le faire, tout ça. Alors j'ai commencé à dessiner tous ces uniformes, tous ces militaires, la typologie des types, comme ça. Non? Et ça m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et je peux dire que même aujourd'hui, je vis de cette chose. Je vis des mémoires.
Dès 1941, les Italiens sont battus. Haïlé Selassie retrouve son trône d'empereur avec l'aide des Alliés. Quant à Rolando Pratt, le père d'Hugo, il est emprisonné. Il meurt en 1942. L'enfant et sa mère sont placés dans un camp d'internement, puis renvoyés en Italie grâce à la Croix-Rouge. ...1945, la fin du fascisme, la découverte du jazz, ici... Dizzy Gillespie, qui deviendra plus tard un ami de Hugo, lequel, qui n'est jamais passé par les universités, cherche, à la fin de la guerre, à gagner sa vie par le dessin. Gamin, il avait été repu des comics américains qui remplissaient les publications italiennes avant que Mussolini n'en interdise l'importation. C'est là qu'il avait, pour la première fois, découvert celui qui sera son maître, Milton Caniff, dont de rares originaux figurent dans l'exposition Hugo Pratt de Confluence. Caniff travaillait en noir et blanc, une technique pour laquelle Pratt gardera une dilection. Caniff avait le trait extrêmement concis. L'idéal pour Pratt, ce sera de dessiner une simple ligne d'horizon qui pourrait figurer un paysage. Pareillement, il composera de pleines pages qui se succéderont sans un dialogue, des nappes de silence en noir et blanc. Il semble que ce soit à Buenos Aires que Pratt ait connu Dizzy Gillespie qu'on vient d'entendre. Il avait été attiré dans le pays de Borges par un éditeur qui recrutait large en Italie. C'est à Buenos Aires aussi que lui sera enfin offerte la possibilité, en 1959, de signer seul une histoire. En cette fin des années 50 et au début des années 60, il va et vient entre l'Argentine, les États-Unis, San Paulo, Londres, pour revenir en Italie en 1962. Il s'établira longuement à Paris. Et oui, Pratt a appartenu à la joyeuse bande de Pif Gadget à l'époque des pois sauteurs, et évidemment aux écuries de Tintin, Pilote, à suivre. Il essaye avec chacune de calculer au plus juste ses rémunérations. Le personnage de Cortot apparaît seulement l'année de ses 40 ans, en 1967, au milieu d'autres, mais de plus en plus identifié dans l'album clé « La balade de la mer salée », un roman graphique, dirait-on aujourd'hui, plus qu'une BD. Il a fallu beaucoup d'allées et venues à son créateur pour que Cortot le nomade s'installe. Comme si l'Italien avait eu besoin de sortir de l'italianité, de se porter à toutes les frontières possibles. Ici, celle extrême entre la Finlande, la Norvège et la Russie.
Ruski, Ruski, Ruski. Et ils sont sortis, les Russes de la cabine. Ils sont dans les gardes frontières. Et alors, moi, j'ai commencé à dire, écoutez, Ruski, Italianska, 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 Tovarich, Karasho, Kaposevaya, Karasho, Partito, Italianski, grandi amici, de grandes amies. Et avec les Russes est sorti aussi un ours, un grand ours, qui me regarde tout le temps comme ça. Il dit, mais sergent, nous voulons aller là. Et les Russes me regardent et me disent, Italianski. Italianski, Italianski, Karasho, sole mio. E sole mio, sole mio, sì, sole mio, ma sole mio. E allora il buon amico mi dice, ecco, che potete, lui che ti chanta, sole mio. Sole mio, è una canzone che moi je sais, je connais pas les paroles, je l'aime pas cette chanson. E lui mi dice, no, il russo mi dice, sole mio, è l'urso. Comme ça, tout le temps que je me regarde, j'ai commencé à chanter. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Et moi, que je suis vénitien, j'ai chanté une chanson napoletaine, c'est affreuse pour moi. Et alors, à ce point-là, les Russes, il a dit, bon, ça va. Moi, j'ai monté la chanson, il l'a accompagné, il a fait d'escorte, jusqu'à la frontière norvégienne.
Alors, on sait que le succès est venu vite à Cortot et l'argent à Pratt. Il arrive même à Cortot de trouver des trésors. Ainsi, celui du roi du Monténégro. Pendant la guerre de 14, il avait fui les Balkans pour rejoindre l'Italie où sa famille peuplait déjà le Quirinal. En chemin, il avait caché son or dans une petite église. Eh bien, Cortot l'y a déniché et a fait main basse. Mais Cortot n'est pas un homme de l'accumulation, ce qui coïncide parfaitement avec l'époque. Il refuse évidemment à la société de consommation de lui rendre le moindre hommage.
La bande dessinée, c'est un produit nord-américain. C'est une affaire capitaliste. Comme le cinéma que moi j'ai regardé quand j'étais jeune, c'est une affaire capitaliste nord-américaine. Alors il y a les lanceurs bengalis, il y a toute une histoire de la brigade légère, et les quatre plumes, ce sont tous des films aventureux. Et la bande dessinée aussi. Alors, c'est un produit, si vous voulez, qui est venu du capitalisme. Et quand moi j'ai pris une certaine conscience, alors j'ai cherché de faire quelque chose de différent.
Pourquoi ? Pourquoi continuer à faire des erreurs qu'ils ont déjà existé ? Je crois qu'aujourd'hui, l'histoire a changé. La jeunesse aujourd'hui, ils sont là à faire la contestation. Il y a le mouvement, par exemple, de 68. Alors, avant de 68, vous avez les filles de fleurs, vous avez les hippies, vous avez tout ça. Vous avez tout le temps quelque chose de contestataire, mais révolutionnaire. Pourquoi pas, alors, pas user la même possibilité durant de la bande dessinée? C'est pour ça que Corto Maltese, il est parti. il est obligé à visager une conscience que peut-être avant il dormit lui-même.
Vers quoi Cortot est-il parti? Les années d'après 68, on les peint volontiers en rouge et noir, mais elles sont davantage marquées par l'ésotérisme qu'on ne le croit. Cortot n'est pas un bout de feu qui s'en va faire la révolution, il va vers le mystère. « Tu pars à la recherche de quoi ?» lui est-il demandé souvent. Eh bien, il voudrait trouver le calice enchaîné à la pierre philosophale où fleurit la rose alchimique de Thuringe, ou le sceau de Salomon dont la trace gît dans l'escalier des rencontres de la cour des arcanes, dissimulé entre le pont de la nostalgie et le passage des mauvaises pensées. Mais enfin, le succès, il vient aussi du fait que Cortot est tout simplement séduisant. Voici comment Pratt est invité à le présenter par un duo constitué par le producteur de télé Frédéric Mitterrand et la chanteuse Lio.
Cortot, il est beau physiquement. Il a un physique, enfin je sais pas, est-ce que Lio, est-ce que vous êtes sensible, est-ce que tu es sensible à la beauté physique de Cortot?
Ah oh ben oui.
Hein, son charme incroyable.
Ah oui, il est beau, il est très beau.
Hein? Et, là, et pourquoi est-ce qu'il a une boucle d'oreille?
Ah, les boucles d'oreilles, vous savez, viennent d'une ancienne tradition marinaire, maritime. Les boucles d'oreilles sur l'oreille gauche, c'est la marine marchande. Sur l'oreille droite, c'est la marine de guerre, grande de l'histoire de la marinerie, comme ça. Et alors, c'est pour ça, lui fait partie de la marine marchande.
Est-ce qu'il vieillit? En dehors de son enfance, on le voit enfant, est-ce qu'il vieillit?
Mais tous les personnages, des hommes comme ça, des caractères, des auteurs, il vieillit plus lentement que les propres auteurs. Mais moi, j'avais un problème avec lui. Parce que chaque fois, il y a une espèce de nettoyage dans les dessins que moi j'ai fait, il devient chaque fois plus jeune. Alors j'étais obligé de trouver quelque chose. Et dans les Helvétiques, que c'est une histoire que moi j'ai fait dernièrement, je l'ai fait trouver le filtre, un élixir.
Un élixir, oui.
De longue vie,
oui.
De Paracelsus. Mais je crois que Corto Maltese, il a sa vie à lui. Et c'est quelque chose que moi je le respecte à Corto Maltese. Vous savez, quand je suis là à faire un dessin, et je pense que je devais faire une histoire avec Corto Maltese, il commence à naître sur un papier. La première chose que moi j'ai fait sont les yeux de Corto Maltese. Il commence à regarder. À ce point-là, c'est comme si il me demandait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas révéler quelque chose que moi je ne veux pas? Alors il y a comme une espèce de complicité entre lui et moi. Alors moi je suis obligé un peu à le respecter, cette chose.
C'est un partenaire, mais il ne peut pas prétendre à s'identifier avec lui. Vous m'avez vu, dit-il, Cortot, vieilli. Même quand je regarde avec tristesse mes photos de jeunesse, quand j'étais passable, je ne pouvais pas rivaliser avec Cortot. Il n'en reste pas moins que le héros et le créateur font les mêmes voyages, sont attirés par les mêmes sujets et lisent les mêmes livres. En 1984, Hugo Pratt s'est installé dans une maison en Suisse que personne ne voulait acheter parce que s'y était commis un crime. Ce n'était pas vraiment une maison, plutôt une vaste bibliothèque de 20-30 000 livres où étaient installés quelques lits, quelques meubles. Pratt en sortait des rayons les ouvrages qu'on voyait Cortot lire ensuite. Les vieux grimoires de l'alchimie, mais par priorité, Jack London, Robert Louis Stevenson, Pratt avec Cortot rouvrait ses propres bibles.
Essayons d'interroger, d'affronter l'imaginaire de Hugo Pratt, qui est fait d'aventures réelles, qui est fait d'aventures inventées, de personnages inventés, mais quand même bâti quand même sur des rencontres réelles. Il y a des personnages réels littéraires, par exemple comme Rimbaud qui apparaît, ou comme Saint-Exupéry. Et il y a aussi beaucoup de fables, puisqu'il y a toute une déclinaison de celtiques, éthiopiques, helvétiques. Il dit qu'il aime beaucoup les mots en hic,
oui.
Mais c'est peut-être un peu plus profond que ça.
Mais disons que chaque fois, différentes cultures, il essaie de trouver la partie un peu plus magique, la partie un peu plus des rêves. Et donc, on retrouve vraiment dans l'approche celtique, c'était vraiment tout ce monde, soit littéraire, anthologique, mais soit aussi de la fantaisie. Donc, c'était toujours, il voulait toujours mettre ses côtés à Cortot, qu'il ne soit pas vraiment un aventurier dans les termes courts, un peu de termes, mais qui était vraiment aussi quelqu'un de profond et qui était aussi une aventure un peu plus dans les pensées, dans la tête plutôt que physique. Donc il a toujours voulu mêler pas mal de choses bien, dans Cortot, mais aussi dans les autres personnages, parce que c'était un peu sa façon.
Aussi comment il dose le réel, l'imaginaire, la fable, les personnages réels, des personnages réinventés?
Mais il les dose très bien, parce que quand on lit les histoires, quand on arrive à lire ces histoires, je dis toujours, on peut les lire à plusieurs niveaux. Donc, on peut très bien lire l'aventure pour elle-même. On peut trouver des références littéraires et donc aller à la recherche pour en savoir un peu plus. Et on peut aussi se faire prendre un peu par des promenades et simplement voir Cortot qui se promène ou des autres personnages qui sont pris dans une autre façon de voir les choses et de voyager aussi. Et donc, je pense que c'est un peu la clé des histoires de Pratt qui font un peu un classique. C'est vraiment ce mélange très bien réussi avec tout cet élément.
C'est Patricia Zanotti qu'on vient d'entendre. Elle a travaillé très étroitement avec Hugo Pratt dans les dernières années de sa vie. Et c'est elle qui est la co-commissaire de l'exposition Confluence à Lyon. Hugo Pratt, Ligne d'horizon, en compagnie de Michel Pierre. Alors, à propos de dosage, le dosage entre les personnages, le très beau catalogue de l'exposition offre sur 4 ou 5 pages des dizaines de dessins correspondant chacun à un personnage. On va en isoler un qui le mérite particulièrement, c'est Raspoutine. Raspoutine apparaît ici avec Cortot dans une adaptation filmée. Il y en a eu au moins une de qualité avec Richard Berry dans le rôle de Cortot, Patrick Buchitay dans le rôle de Raspoutine.
Bonsoir Raspoutine. Qu'est-ce que tu fais à Hong Kong?
Hong Kong ne t'est pas réservé, que je sache.
Tu es très élégant avec cet imperméable.
C'est un cadeau. Elle te plaît?
Qui ça?
C'est John, là.
Tu t'ennuies?
Je ne m'ennuie jamais. Tu le sais bien.
Bon, allez, viens. On va essayer de trouver quelque chose à boire.
Tu vivras toujours dans tes rêves.
Tu as peut-être raison.
Je pourrais te tuer.
Moi, tu me tueras une autre fois.
Ça fait des années que nous ne vivons plus d'aventures, comme celle du moine ou de la fortune royale. L'idée Scandida, celle de Santo, tu te souviens?
Horace, tu es fou.
Je pourrais te tuer.
Tu n'es pas fatigué de dire toujours la même chose?
Pour se souvenir, donc, parce que ça fait un certain nombre d'années que Cortot Maltese n'a pas vécu d'aventure telle que dessinée par Hugo Pratt, l'exposition de Lyon, Confluence, Hugo Pratt, Ligne d'horizon. Alors on sait que, à un moment, Hugo Pratt met entre les mains de Cortot Maltese la peau d'un moine franciscain sur laquelle les Indiens Jivaro ont dessiné le plan des villes de l'Eldorado. Alors plus prosaïquement, la liste de nos emprunts, nous sommes des hommes léopards. À France Culture, la matinale de Claude Dupont, peinture fraîche de Jean Dève, panorama du regretté Michel Bidlowski, sur France 2 du côté de chez Fred, caractère du regretté Bernard Rapp, et puis le documentaire de Thierry Thomas, Trait pour trait. Cette émission a été préparée par Adèle Kaito, à la technique Éric Morin, la réalisation Audrey Ripouille.